Artus et Gabriel sont prisonniers d'une vieille femme mutilée. Celle-ci peut infliger une douleur à Artus grâce à un os magique. Pour sauver son frère, Gabriel est obligé d'obéir. Entre-temps, belle-mère et le père cherchent désespérément les enfants. En rentrant chez eux, ils sont confrontés à des hommes du baron venus réclamer des taxes. Le père se révolte et tue les trois hommes. 45 ans plus tôt, le prêtre découvre Jeanne dans le donjon, grièvement mutilée mais encore vivante. Il aide à s'enfuir. Peu après, il est intercepté par le baron et le commissaire de l'évêque. Pour couvrir la fuite de Jeanne, il se laisse conduire dans le donjon à son tour. Jeanne parvient à échapper aux hommes du baron et atteint la maison de Marthe. Lorsque ses poursuivants arrivent, des créatures appelées par ses incantations les massacrent dehors. Jeanne quitte les lieux en emportant le vieux grimoire de Marthe. Elle jure de se venger de ceux qui ont détruit sa vie et celle des autres et qu'elle va manger leurs enfants.
Chapitre 11. La sorcière est assise devant la cage, les mains enfouies dans ses haillons. Artus, accroupi dans un coin, essaye d'éviter son regard. Gabriel travaille depuis des heures. Le pire, jusqu'à présent, ça a été la cave. La sorcière lui a donné une bougie et désigné une porte.
« Va chercher du bois, dépêche-toi !»
Quand elle a ouvert la porte, et quand elle a vu l'escalier raide descendant dans le noir, elle ne voulait pas, non. Elle ne voulait vraiment pas. Sans réfléchir, elle a claqué la porte. Mais quand elle s'est retournée, la sorcière se tenait juste derrière elle, brandissant l'os. Alors Gabriel a rouvert la porte et elle est descendue avec sa bougie à la main.
Fais vite, sinon ton frère va passer un mauvais moment.
Lui a lancé la sorcière du haut de l'escalier. L'escalier paraissait interminable. Il descendait en colimaçon, dans des profondeurs bien en dessous du niveau d'une cave. Par endroits, il n'y avait plus de mur du côté gauche, que des ténèbres. Des courants d'air froid chargés de relents fétides montaient des profondeurs. Elle s'est collée contre le mur droit et a essayé de ne pas regarder à gauche. Arrivée enfin en bas, elle a aperçu à la lumière de la bougie des étagères. C'était un garde-manger. Avec des parties de corps humains, des corps d'enfants. Comme elle devait rapporter des bûches, elle a été obligée de poser la bougie sur la dernière marche en bas et d'avancer dans la semi-obscurité entre les étagères. Le bois était stocké tout au fond de la cave. Avec une demi-corde de bois dans ses bras, elle a voulu remonter le plus vite possible, mais en arrivant devant la bougie, elle l'a renversée. Et il a fallu monter l'escalier dans le noir. Ensuite, il a fallu mettre le bois dans le four. Le four était énorme, la porte était plus haute que Gabriel. Gabriel a entassé les bûches à l'intérieur en faisant attention de laisser la porte grande ouverte, et elle a réussi à démarrer le feu. La sorcière a demandé à Gabriel
« Tu as fini ?»
La sorcière s'est levée pour inspecter le four. Avec une rapidité et une force qu'on ne soupçonnerait pas chez une vieille femme, elle a attrapé et giflé Gabriel.
« T'appelles ça un feu? Tu te moques de moi, petite garce? Il en faut beaucoup plus, même si ton frère est un gringalet. Les autres n'étaient jamais assez à point. »
La sorcière voulait deux cordes à bois. Donc, il a fallu redescendre et remonter encore trois fois. Pendant que Gabriel continue à mettre des bûches dans le four, elle entend la sorcière parler. Au début, elle a pensé que ça s'adressait à elle. Elle a eu peur, parce qu'elle ne comprenait pas. Mais la sorcière parle toute seule. Ce sont des bouts de phrases, parfois dans une langue que Gabriel ne comprend pas.
Dieu ne m'a pas aidé. #Carélioche. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, vous allez voir. Je les ai vues, les plaines. Je les ai vues, les montagnes, les abysses. Dieu ne m'a pas aimé. La mag, la gamag, la zagastena qui a...
Tout en récitant l'incantation, elle va préparer un breuvage sur la cuisinière. Dehors, la nuit tombe. Un coup de tonnerre éclate. Petit à petit, la pièce est seulement éclairée par le feu dans le four, la cuisinière et par des éclairs venant du dehors. La sorcière pose le breuvage fumant sur la table. Elle s'interrompt un instant pour inhaler les vapeurs, puis elle reprend l'incantation. Elle va chercher un énorme couteau et commence à l'aiguiser.
Viens ici.
Les deux mots pourtant prononcés à voix basse frappent Gabriel et lui glacent le sang. La sorcière tient le couteau dans une main et brandit l'os dans l'autre. Gabriel commence à pleurer. Elle avance, hésitante, en tremblant de peur. Derrière la sorcière, elle voit Artus croupissant au fond de la cage. Il la regarde en pleurant aussi et secoue la tête.
Approche.
La sorcière lui agrippe le poignet. Ce n'est pas la peine de lutter contre l'étau. Avec le couteau, elle lui fait une coupure dans la paume de sa main. Gabriel hurle. La sorcière force la main de Gabriel au-dessus du breuvage et fait couler le sang dans le liquide. Tout en tenant Gabriel dans sa prise de fer, elle boit le liquide fumant. Son corps se met à trembler, sa bouche tordue en un sourire difforme. Puis les secousses s'estompent. Elle pose le pot et se tourne vers Gabriel. Gabriel, incrédule, arrête de crier. La sorcière a rajeuni d'au moins 30 ans. De nouveau, elle ressemble à la mère de Gabriel. Pourtant, Gabriel n'avait jamais eu peur de sa mère, jamais. Pourquoi maintenant sa mère semblait être mêlée à tout ça ? La femme borgne avec les cicatrices observe Gabriel pendant un instant, le sourire hideux toujours aux lèvres. Puis, tout d'un coup, elle la lâche, se lève et sort de la maison. Bouche bée, Gabriel la regarde sortir en se tenant la main blessée. Chapitre 12. Dehors, une pluie violente commence à tomber. Des éclairs crépitent. Des nuages noirs en forme de vortex gigantesques laissent apparaître au centre la pleine lune. La sorcière marche sous la pluie vers une clairière non loin de la maison. Là, elle se déshabille. Elle s'étire. La pluie coule sur son corps. Un corps de femme magnifique, couvert de cicatrices. Elle écarte les bras et se tourne vers la lune.
La gage, la sage, la cacolomanisage, la magali.
D'un coup de tonnerre éclate, avec un écho. La sorcière marque 7 pas. Cela ressemble à une danse étrange. Entre le tonnerre et la sorcière, une danse macabre s'installe, impossible de savoir qui a fait le premier pas. Maintenant, en phase avec le tonnerre, la sorcière ne s'arrête plus. Sous le crépitement de la pluie, elle continue à danser, à scander d'une voix sombre l'incantation. Depuis la porte de la maison, Gabriel regarde horrifié la scène. Le temps qui s'écoule entre un éclair et le coup de tonnerre qui suit indique la distance de l'orage. Lorsque la sorcière est frappée par la foudre, le tonnerre éclate en même temps. Elle reçoit le coup sans chanceler. Elle n'interrompt même pas sa danse. La foudre et la pluie provoquent une épaisse fumée qui enveloppe la sorcière. Quand la fumée se dissipe, la sorcière réapparaît. Son corps est resté indemne, mais sa tête est transformée en une tête de bouc avec un œil crevé. La tête de bouc poursuit l'incantation. La pleine lune, au centre du vortex des nuages, éclaire le paysage. Une forêt dense et obscure qui s'étend jusqu'à l'horizon. Les éclairs projettent parfois une lumière crue sur un pan de la forêt. La maison de la sorcière, perdue dans toute cette immensité, a l'air minuscule. À un endroit situé à quelques kilomètres de la maison, les arbres commencent à bouger d'une manière étrange. À cet endroit, ce ne sont plus les rafales de vent qui secouent les arbres. C'est une ombre gigantesque qui avance entre les arbres, repoussant les cimes sur son passage. L'ombre se dirige vers la maison de la sorcière. Gabriel sent le sol trembler légèrement. La femme démon continue sa danse de plus en plus désarticulée, à la chorégraphie grotesque. Elle cherche à s'approcher de la lune. Ses pieds quittent le sol. Elle s'élève dans les airs, de plus en plus haut, le dos tourné vers Gabriel. Ses vêtements sont restés éparpillés par terre. En tremblant, Gabriel se glisse vers le tas de haillons. Sans détourner son regard de la scène démoniaque qui se déroule dans l'air, elle fouille les vêtements. Elle trouve l'os préparé et la clé de la cage. Elle les empoigne et court vers la maison. La femme démon se retourne dans l'air et voit Gabriel en train de courir. Elle retombe sur le sol, court vers ses vêtements, ne trouve pas l'os et poursuit Gabriel. De nouveau, le temps se disloque. Gabriel court aussi vite qu'elle peut. Mais la maison n'approche que très très lentement. La femme démon derrière elle va la rattraper d'un instant à l'autre. Gabriel entend une voix intérieure. Celle de sa mère.
Ne te retourne pas. Cours. N'abandonne pas. Ne te retourne pas. Cours.
Tout d'un coup, elle se trouve devant la cage. Elle lance l'os à Artus.
Attrape.
Artus n'arrive pas à le rattraper. L'os tombe entre les poutres sous la cage. Gabriel essaye frénétiquement d'insérer la clé dans la serrure de la cage. Derrière Gabriel, dans l'embrasure de la porte, apparaît la tête de bouc. La femme démon fond sur Gabriel, la saisit par les cheveux et la tire violemment en arrière. Mais Gabriel a réussi à ouvrir la cage. Artus a trouvé l'os entre les barreaux. Au moment où il le serre dans son poing, il sent quelque chose basculer en lui. La peur et l'humiliation s'effacent. Un besoin de révolte, désespéré et irrésistible l'envahit. Au milieu de toute cette frénésie, pendant une seconde, il a la sensation que son père lui touche l'épaule. L'os au poing, Artus bondit hors de la cage. Comme un fauve déchaîné, il se jette sur la femme démon et enfonce l'os dans l'œil unique.
Crève !
Des rugissements d'un bouc qu'on égorge, mêlés aux hurlements d'une femme furieuse, s'échappent de la bouche de la femme démon. Elle arrache l'os, le jette et essaye d'attraper les enfants. En titubant à travers la maison, aveugle, folle de rage, elle renverse des meubles et des objets. Les enfants se cachent à côté du four. La sorcière s'immobilise pour écouter. Les enfants ne bougent pas. Dehors, on entend la tempête. Le feu crépite dans le four. De légères secousses font vibrer le sol. Des objets commencent à s'entrechoquer, à teinter. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce sont les pas de quelque chose de colossal qui approche. La femme démon flaire l'air pour détecter l'odeur humaine. Elle avance, en tâtonnant. Elle s'approche de leur cachette. Les enfants se lancent un regard. Artus fait un geste à Gabriel. Gabriel hoche la tête. Lorsque la sorcière se trouve juste devant la porte du four, ils bondissent hors de leur cachette. Ils saisissent la sorcière des deux côtés et la poussent dans le four. La sorcière se retourne dans les flammes et essaye de se hisser dehors. Artus claque la lourde porte, s'y appuie, et Gabriel pousse le loquet. Les hurlements qui s'élèvent dans le four sont tellement atroces que les enfants se bouchent les oreilles. Mais assez vite, les hurlements changent. Les secousses se sont arrêtées. Les enfants se regardent, attendent. Mais plus rien ne se passe. Ils s'assoient, silencieux, appuyés l'un contre l'autre. Au bout d'un moment, Artus prend la main de Gabriel. Gabriel passe son bras autour de ses épaules. Au-delà de la fenêtre et de la porte ouverte, s'étend un ciel calme, criblé d'étoiles. Après un long silence, Gabriel dit doucement
« Tu te rends compte? Maintenant, nous pouvons rentrer. »«
Oui, mais comment on va retrouver le chemin ?»
Les enfants se lèvent et regardent prudemment autour d'eux. Les portes ont disparu. Il ne reste que la grande pièce. Dans un coin, Gabriel retrouve sa sacoche. Il y a encore des bouts, des champignons bizarres dedans. Dans un autre coin, il découvre un coffret avec un vieux grimoire et une carte dessinée à la main. Gabriel sort la carte du coffret et l'étale sur la table. Dans sa sacoche, elle prend des bouts de champignons et en donne un à Artus. En mangeant les champignons, les enfants étudient la carte. Chapitre 13. Les parents à cheval longent le haut d'une falaise surplombant la mer. Le père devant, belle-mère le suit, menant le troisième cheval. Ils s'engagent sur un petit sentier qui descend vers la plage. Une petite ville apparaît plus loin avec son port de pêche, au large, un grand voilier à jeter l'ancre. Les parents longent la plage en direction de la petite ville. Belle-mère commence à pleurer silencieusement. Le père le sent et se retourne vers elle.
On ne pouvait plus attendre. Ils nous auraient arrêtés à l'aube. On va continuer les recherches à partir d'ici. On a encore eu de la chance que cet orage maudit se soit arrêté si soudainement.
De la chance? Sans les enfants?
Peut-être qu'il...
Il s'interrompt, son regard fixé au loin derrière belle-mère.
Regarde!
Belle-mère se retourne. Tout en haut de la falaise, on voit deux petites silhouettes. Elles leur font signe, puis descendent le chemin en courant. Lorsque les parents et les enfants courent sur la plage pour se retrouver, leur bonheur semble inonder le sable, peut-être même l'océan. Après le cauchemar, la vie leur offre une suite, inespérée peut-être, imméritée, mais en tout cas terriblement réelle. Leur histoire ne va pas se terminer dans les ténèbres, au contraire, elle va continuer, lumineuse, triomphale. La famille s'approche de la ville portuaire. Les enfants sont montés ensemble sur le troisième cheval. Ils regardent enchantés les merveilles, la ville, le grand voilier, la mer. Ils n'ont pas raconté ce qu'ils ont vécu. Ils ont dit qu'ils se sont perdus dans la forêt et qu'ils ont trouvé une cabane abandonnée où ils ont passé la nuit. Le père veut en savoir plus.
Mais comment avez-vous fait pour retrouver le chemin ? La forêt est si grande.
Gabriel répond.
On a trouvé cette carte dans la cabane. En fait, il y a plusieurs routes pour sortir de la forêt.
Une navette part du bateau et se dirige vers le port. Des gens commencent à s'assembler dans le port et à attendre l'embarquement. Belle-mère demande au père.
Tu crois que les pièces d'or de ces trois salopards suffiront pour qu'ils nous laissent monter sur un bateau ?
On va aussi vendre les chevaux.
Artus demande.
On va aller où ?
Peu importe le pays, on y sera plus en sécurité qu'ici.
En bateau ?
Belle-mère, toujours pas rassurée, revient sur le sujet.
Mais comment saviez-vous nous chercher ? Comment avez-vous fait pour nous rattraper si vite ?
Artus répond en riant.
Ben, on l'a volé.
Gabrielle, assise derrière Artus, lui donne un petit coup de poing dans le dos. Et les parents rient de cette petite menterie d'Artus. Pour l'instant, ils sont trop heureux pour insister. On en reparlera plus tard. Et puis ça y est, on rentre dans la ville. Gabrielle, assise derrière Artus, vérifie sa sacoche. Elle la referme soigneusement. Elle ne veut pas qu'on voie le vieux grimoire.
Et ainsi, Hansel et Gretel rentrèrent à la maison. Entre-temps, la méchante belle-mère était partie et le père avait regretté sa malheureuse décision. Il se morfondait de chagrin. Mais lorsque Hansel et Gretel arrivèrent avec le butin de la sorcière en plus, la joie fut grande. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore aujourd'hui.
La servante a terminé le conte avec la formule traditionnelle. Les enfants sont exigeants là-dessus. Il faut que ça soit raconté correctement. Elle sourit au petit garçon dans son lit.
Voilà, petit prince. Maintenant, on va fermer les yeux.
Mais le garçon ne veut pas encore dormir. Ses yeux restent grands ouverts. La baronne est plongée dans ses pensées. Son regard perçant fixe l'écusson au-dessus de la cheminée sans le voir. Il y a 2 semaines, le valet lui a apporté les bottes déchiquetées du baron.
C'est tout ce qu'on a pu trouver, madame la baronne. Vous savez, les loups, en ce moment.
Le valet a fait le signe de la croix. Depuis la naissance de son fils, il y a 3 ans, elle voyait le baron encore plus rarement. Et c'était très bien ainsi. Moins elle le voyait, mieux elle se portait. Toutes ces disparitions étranges avaient déjà nourri en elle l'espoir qu'un jour il ne rentrerait plus du tout de ses virées nocturnes. Maintenant, elle est bien contente que son espoir se soit réalisé. Quel soulagement d'être délivrée de ce port. Feindre le deuil profond d'une veuve inconsolable ne pose pas de problème à la baronne. Ainsi, on la laissera tranquille pour un bon moment. Par contre, pour garder le contrôle du fief, il va falloir agir avec prudence. Officiellement, il faut que son fils ait atteint l'âge de 15 ans pour prêter serment. Après, il pourra régner en suivant les consignes de sa mère, évidemment. La baronne sait qu'en attendant, sans mari ni tuteur, son titre de baronne reste transitoire. Il va falloir trouver un nouveau mari, de préférence quelqu'un de facile à mener, quelqu'un qui lui permettra de gérer les richesses du fief à sa guise. Cela ne sera pas trop difficile, elle a encore des options. N'empêche que cette histoire de bottes déchiquetées est inquiétante. Depuis 3 ans, elle ressent parfois comme une menace qui rôde autour d'elle et de son fils. Et récemment...
Madame la baronne ?
La baronne est irritée.
Oui ! Quoi encore ? Le jeune baron vous réclame ?
Dit la servante timidement à travers la porte.
Il ne dort toujours pas ? Vous lui avez raconté le conte ?
Oui, mais maintenant il a peur des sorcières.
La baronne pousse un soupir exaspéré. Combien de fois elle lui a déjà expliqué que les sorcières, ça n'existe pas ?
Vous lui direz que les sorcières n'existent pas et les belles-mères non plus, et que je viendrai plus tard.
Très bien, madame la baronne.
Les sorcières n'existent pas parce que nous les brûlons. Mais on ne les aura jamais toutes. Il faudra rester vigilant encore longtemps. Très longtemps.